This is the Humans Link Audio Experience. The greatest.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humansling.com et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café. J'espère que vous allez tous super bien, ça me fait plaisir d'être de retour avec vous ce matin. Comme vous le savez maintenant, on revient tous les jours de la semaine à 11h. L'objectif de ce live et de Humanslink est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Et c'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement pour renforcer le lien humain, mais favoriser aussi l'entraide et la solidarité. D'ailleurs, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, vous pouvez nous suivre en live, mais aussi en rediffusion. Si vous êtes en ce moment sur le live, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube sur le bouton juste en bas et à activer la petite clochette pour recevoir les notifications parce qu'en cette période, avec Humanslink, on produit du contenu très, très, très régulièrement. D'ailleurs, je vois qu'il y a Lily qui est ici, qui s'est connectée. Bonjour Lily, qui est en Guadeloupe à Petitbourg. Donc, Humanslink, on propose des actions de consulting, de formation, de coaching. L'idée est de repenser comment nos organisations fonctionnent pour remettre l'humain au centre des choses. Bien qu'on soit basé dans la Caraïbe, en Guadeloupe, on opère également à Montréal. En ce moment, je vous parle de Montréal. Je salue Yolande qui vient de se connecter sur Facebook. Et donc, mon invité aujourd'hui, il est kinésithérapeute, mais il oriente ses patients dans une vision globale. Vision globale de la relation entre le corps, la conscience, et l'environnement. Et donc, il sensibilise ses patients à devenir actifs dans leur prise en charge, comment être autonome et responsable, parce que ce sont les clés pour créer l'équilibre de la vie et de la santé. Merci d'accueillir Marc Olive. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour à vous tous. Enchanté.
Comment vas-tu?
Ah bah écoute, je vais bien. Alors, je vais bien est un grand mot, il faut être juste honnête avec soi-même. Je vais bien dans ma tête, maintenant que j'ai fait tout un certain nombre d'évolution ces derniers temps en moi qui se sont accélérées avec cette situation que nous avons vécue, parce que j'ai essayé d'en profiter dans le bon sens. Mais aujourd'hui, je suis dans une phase où c'est les douleurs du corps qui remontent, parce qu'en fait, quand on se libère dans sa tête, on libère aussi des choses dans son corps, ce sont les émotions qui s'y sont stockées. Et donc, il y a des phases comme ça où il faut lâcher, il faut libérer, aussi bien vers le haut que vers le bas, les émotions vers la terre et les croyances vers le ciel, pour redonner un renouveau, se réinventer, comme disait Macron, bien avant, mais sur une vraie forme, celle d'une autre façon de voir le monde et de le porter.
Super, donc on va...
Quelque part, ça va, même si j'ai mal. Mais je comprends ma douleur, je sais ce qu'elle représente, donc c'est pas un souci pour moi.
Il y a une idée de dire, c'est pas parce qu'on a mal qu'on est obligé de souffrir, et c'est...
Je pense que
la douleur et la souffrance sont pas nécessairement liées.
Il y a la douleur du corps et il y a la douleur de l'esprit. Donc là, la douleur qu'on a l'habitude de connaître, c'est celle du corps. Effectivement, c'est celle que je ressens. Mais tu as aussi la douleur de l'esprit qui est les problèmes de dépression, de stress, parce que c'est deux formes de ressentis différents. C'est l'expression du cerveau d'un côté, c'est l'expression des organes de l'autre et des structures musculaires de l'autre. L'idée, c'est d'arrêter d'avoir peur de la souffrance psychologique, de la rejeter, de la mettre de côté, de rejeter la douleur, de rejeter parce que ça nous gêne, ça nous freine, ça nous empêche de faire ce qu'on a l'habitude de faire. Du coup, on ne comprend pas ce que c'est. On est dans un postulat de conscience qui nous met en position de spartiate avec nos boucliers, notre douleur, je te rejette. Allez, un coup de doliprane, un coup d'anti-inflammatoire, ouais. Tu m'emmerdes, tu m'empêches d'avancer. Sentiment de culpabilité ou de peur qui se trouve dans ta tête, non, c'est bon, tu me fais chier, je te repousse, je te refoule. Mais tu refoules ça où? Tu refoules dans le corps. C'est pas traité.
J'entends. Donc, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est ce que j'entends ici. D'ailleurs, toi, Marc, comment tu l'as vécu? Là, en ce moment, en France, je sais que la période de déconfinement a commencé. Donc, c'est pas on-off. Il y a une période de transition. Mais comment tu l'as vécu, toi, cette période de confinement qui, quand ça a commencé, on savait pas exactement combien de temps ça allait durer?
Quelque part, je l'attendais. J'attendais un signe qui puisse bousculer l'humanité dans ses références et dans ses croyances, surtout. Mais j'aurais jamais pensé que ce signe puisse prendre cette forme-là et cette puissance-là en si peu de temps. Donc, au début, il y a une phase de sidération quelque part parce que tu dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Comment je me positionne par rapport à ça? Donc, la première chose, c'est pause. Ouais, de cette pause est née une analyse qui était la mienne par rapport à tout le travail que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent de recherche et de compréhension de l'humanité, mais aussi des cycles cosmiques dans lesquels nous habitons, quand nous avons une vision très étroite de la vie et pas assez large et ample.
Parce que tu t'intéresses beaucoup, parce qu'en fait, effectivement, je l'ai pas dit avant, mais Marc, tu as été intervenu lors de la week organisée par HumanSync en novembre dernier, où on repensait justement, la week, c'est un événement annuel qu'on organise avec HumanSync pour créer une plateforme pour pouvoir échanger sur des sujets importants, justement pour repenser les modes des organisations, comment on fonctionne, pour pouvoir créer des organisations qui sont créées par l'homme et pour l'homme. En prenant en compte aussi l'environnement dans lequel on fait partie. On l'a vu durant tous ces lives que y a peut-être cette prise de conscience que nous faisons partie de la nature, il n'y a pas la nature et nous. Et donc, effectivement, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es quelqu'un qui t'intéresse énormément à tout ce qui est biologie, la cosmologie, à la physique aussi,
la physique quantique, la théosophie, l'ésotérisme, le chamanisme, la biologie, le monde des pierres, l'air, l'eau, tous les éléments qui nous nourrissent. Si on n'a pas compris ce que c'est, on ne peut pas se connecter à eux et donc on ne peut pas avoir le jus dont on a besoin pour fonctionner. Donc il y a mon parcours est un parcours propre à moi-même parce qu'en fait c'est une petite voix intérieure qui m'a toujours causé et qui m'a remise en question devant les réalités quotidiennes de mon travail. Par exemple, j'arrive dans la vie avec une formation professionnelle type occidentale avec les conceptions très physiques et rationnelles des choses. Et très vite sur le terrain, tu te dis ça marche pas comme il le raconte là. Il y a des trucs, c'est les mêmes pathologies, deux patients différentes, et tu appliques les mêmes traitements et c'est deux résultats complètement différents. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui ça et pas lui ça? Donc, tu es confronté à une réalité de blocage dans le soin et l'accompagnement des corps. Tu as l'impression souvent de faire quand tu t'attaques qu'au corps physique comme seul outil d'action, tu as l'impression d'être de faire la nage à contre-courant, qu'il manque quelque chose dans tes soins, que ça reste superficiel, tu obtiens des résultats, chez certaines personnes ils tiennent, chez d'autres personnes ils retombent très rapidement, tu vois, plus ou moins rapidement. Donc tu dis pourquoi, et tous ces questionnements m'ont amené à me poser aller rechercher, écouter ma voix. Elle me dit ça c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on t'a appris sur le sujet, mais qu'est-ce qu'on dit d'autre sur ce sujet là Et donc il y a eu un mécanisme d'ouverture dans ma conscience de me dire ce que je sais, c'est une partie de la réalité de mon monde. J'ai beaucoup d'autres choses à apprendre, je crois qu'on est loin de tout savoir, et si tu veux pouvoir avancer de façon équilibrée dans la vie, instruis-toi, passe par la connaissance, la théorie puis la pratique pour pouvoir te mettre dans ce fameux cercle de la vie, des cycles de la vie qui te permet d'avancer de jour en jour, d'heure en heure, de mois en mois, d'année en année. Mmh. Effectivement, ça m'a amené à toucher à tout. Que tout était lié, donc il y avait une nécessité, même à l'économie, même à la finance, comprendre notre monde rationnel.
Ça me fait sourire parce que quand tu parles de la relation patient et traitant, kinésithérapeute de formation. Ça me fait beaucoup penser aussi à ce qu'on fait avec HumanSync. Quand on arrive dans une entreprise, c'est un ensemble de personnes. Et donc, il n'y a pas une entreprise qui est identique. Même s'il y a plusieurs entreprises de 50 employés, il y a plusieurs entreprises de 10 employés, il y en a plusieurs qui opèrent dans le même secteur d'activité. Et effectivement, c'est aussi ce qu'on a observé avec HumanSync. Soit on va imposer une solution, qui est la même solution pour tout le monde, ou alors comment on peut prendre en compte le caractère humain et unique, particulier aussi, de chaque organisation et de chaque individu. Donc ça me fait sourire, ça me fait penser à ça.
C'est exact, parce qu'il y a le jeu, les éléments qui composent l'entreprise, et il y a le nous, qui est une partie de chacun des jeux qui vient construire une autre entité.
Et c'est la culture d'entreprise. Et voilà. Chaque entreprise.
Comment on nourrit le nous à travers le jeu? Si ton jeu est déséquilibré, malheureusement, ta participation dans le nous va être déséquilibrée. Et je le vois trop souvent dans le monde de l'entreprise. J'ai eu la chance de connaître pas mal de personnes qui vivent, qui travaillent dans plein de secteurs d'activité, que ce soit les conseils régionaux, les grosses entreprises, etc. Dans la fonction publique et dans la fonction privée, il y a trop de temps passé chaque jour dans l'entreprise entre les salariés à savoir qui est responsable de l'erreur, à se justifier, à juger, à critiquer, à se victimiser. C'est une énergie folle autour d'une seule chose. Hein. On n'a pas pu réaliser ce qui était prévu pour l'entreprise. Et là, ça part dans... Personne ne se concentre sur la solution. Personne ne se dit, non, je ne suis pas là pour aller chercher qui, quoi, comment. Qu'est-ce qui nous importe? Il faut qu'on aille. On a besoin de mettre ça en œuvre là, dans les temps qui sont donnés. J'ai autour de moi suffisamment de compétences pour ne pas aller chercher dans la défense, le comportement de l'autre. Non, on travaille ensemble, on trouve des solutions. Et après, chacun va quelque part, parce qu'on est arrivé au bout du travail ensemble, se dire, ouais, là-dessus, j'ai pas été top, il va falloir que la prochaine fois, je fasse ma petite part de travail. Mais si je viens me la prendre dans la tête devant tous mes autres collègues, que toi, t'as pas fait ton job, c'est un truc qui touche les égos et les blesse, et ça nous renferme à l'intérieur, ça nous rend agressif, ça nous...
Tu l'as dit, ça consomme énormément d'énergie, de l'énergie qui individuellement nous fatigue.
Que quand tu rentres du travail, on soit épuisé et en
exactement.
Plus, on a pas beaucoup avancé le travail.
Et tu vois, Marc, il y a une idée que j'aime poser, et c'est aussi ce qu'on fait avec Jean-Jacques French et Human Thing, c'est de se dire, et si l'entreprise, et si le travail, donc peut-être redéfinir ce que ça veut dire que le travail, mais si le travail n'était pas nécessairement la chose qui me stresse plus, qui me fait vieillir plus vite, qui me fait moins bien dormir, qui me consomme plus d'énergie. Et si c'était l'inverse? Et si quand je vais au travail, je suis capable de me développer? Et si quand je vais au travail, je nourris des relations qui sont profondes et nourrissantes et épanouissantes? Et si quand je vais au travail, c'est aussi une manière d'être en meilleure santé? Et si, tu vois,
c'est de tout ça, c'est possible, et c'est juste parce que la plupart d'entre nous, on a grandi avec l'idée que aujourd'hui, réussir, dans la vision très rationnelle de notre société, réussir, c'est excuse-moi, j'ai eu un trou là. Tu me parlais du travail, c'est ça?
On a été distrait. Il y a des moments où
j'ai des trous. Tu sais, dans les phases de confusion, ça crée pas mal de mécanismes de perturbation de mémoire. J'ai remarqué ça. Quand tu nettoies ton cerveau, ça déclenche parfois un certain... Bon, ça fait partie du jeu. On va le prendre.
Oui. Je te parlais de redéfinir la définition de qu'est-ce que le travail, oui. Et de pouvoir changer, parce qu'il y a pas mal de croyances qui sont communément associé à qu'est-ce que le travail, et la notion aussi de il faut souffrir pour travailler.
Exactement.
Si je ne suis pas en train de souffrir, je ne suis pas en train de travailler.
On a une conception de la vie qui est une conception de survie, pas de vie. Pour réussir, il faut battre. Pour réussir, il faut être le meilleur. Il faut avoir une volonté de faire. Qui tous les jours, tu dois t'animer. Je suis le meilleur aujourd'hui, je vais assurer les chiffres d'affaires qu'il faut que je m'aide. Tous les matins, ça répète ça et ça va au combat.
Mais je suis là, je t'écoute, je vais juste chercher un livre qui est juste à côté.
mais c'est une énergie ça veut dire que pour avancer, il faut forcer. Il faut forcer tout le temps. Ce n'est pas fluide, c'est de la résistance. En gros, j'ai choisi de remonter le courant, quoi. Au lieu de descendre avec le courant et en profiter de la force que me donne l'énergie qui est autour de moi, je vais forcer. Et ça, c'est dans notre état d'esprit. Mais je pense que on force quand on travaille, quand on n'est pas dans sa ligne de vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'expression du travail qui te convient, ou dans le travail qui te convient tout court. Parce que la plupart du temps, notre investissement professionnel est le fruit d'une influence socio-culturelle et surtout familiale. Tout va dépendre des couches sociales dans lesquelles tu vas grandir. Moi, j'ai des amis, ils sont médecins. La conception que leur gamin ne soit moins que médecin, c'est pas possible. Donc, ils vont imprégner une éducation, une instruction pour qu'il soit de haut niveau. Mais est-ce que le gamin a envie d'être médecin? Vous êtes posé la question. Est-ce que c'est sa vibration? Est-ce que c'est son chemin de vie?
Donc, Marc, revenons un peu en arrière sur quand tu constates que tu es avec un patient et que le même protocole ne va pas fonctionner à chaque fois,
oui.
Parce que y a, et tu te mets à ce moment-là à te poser des questions et oui. Tu te mets à t'intéresser.
À lui poser des questions à lui, au patient. Parce donc, qu'en fait, oui, vas-y.
Non, mais je t'en prie. Donc, tu te mets à poser des questions au patient.
Oui. Ben oui, je me mets à poser des questions au patient parce que je me rends compte que c'est dans sa mécanique fonctionnelle que je vais trouver les solutions à mes blocages.
Qu'est-ce que tu appelles mécanique fonctionnelle ?
La mécanique de ta création, l'ensemble des croyances sur lesquelles tu t'appuies pour pouvoir consciemment ou inconsciemment en grande majorité définir des comportements que tu vas mettre en œuvre dans les différentes expériences qui te présentent à toi du matin au soir. Tu vois ?
Alors,
pardon, vas-y.
J'allais simplement commenter pour ceux qui nous écoutent sur Facebook et sur YouTube ou peut-être juste en audio sur le podcast. Ce dont on parle, c'est ce que tu appelles la mécanique fonctionnelle. Il y a un terme que j'ai découvert dans un bouquin qui s'appelle, je pense que je l'ai là, yes, le code de l'esprit extraordinaire. Alors, je m'excuse, je n'ai pas le nom en français, mais il est traduit en français, il est traduit en plusieurs langues, de Vishen Lakhiani. Et ce gars-là parle de ce qu'on appelle le culturescape. Donc, en anglais, le landscape, c'est le paysage. Donc là, lui, il parle du paysage culturel et qui englobe, en fait, toutes les croyances qui sont communément acceptées par notre communauté. Donc, que ce soit notre communauté en tant que Guadeloupéen ou en tant que Québécois, ou que ce soit notre communauté en tant qu'homme de tel âge. Et donc, il y a plein de paysages culturels, quelque part, qui s'entremêlent. Donc, c'est sûr qu'il y a des zones de overlap, de chevauchement. Mm-hmm. Ce que j'aime, en fait, c'est cette notion. J'aime bien trouver ce terme-là, donc culturescape, qui permet, visuellement, vous pouvez imaginer un cercle, et dedans, tout est accepté par, enfin tout est ok, tout est possible quelque part. Et ce qui est en dehors de ce cercle sont les idées, les croyances, mais qui ne sont pas acceptées par votre environnement culturel, religieux, politique, etc. Toutes les influences en fait qu'il y a. Et donc bon, dans le cas de ce bouquin, il explique comment réidentifier quelque part dans notre fonctionnement. Nos mécanismes fonctionnels, comme tu appelles, de pouvoir éplucher chaque croyance et de pouvoir la réévaluer, de dire ok, est-ce que c'est une croyance qui me limite ou est-ce que c'est une croyance qui m'a été imposée ou est-ce que c'est une croyance que moi j'ai choisie, et du coup de dire bon ben peut-être que je peux créer des bosses dans ce cercle parfait et d'aller chercher des croyances qui sont à l'extérieur. Et ce qu'on observe, c'est que les gens qui à la base décide de fonctionner sur un autre modèle de réalité, donc sur un autre mécanisme fonctionnel, comme tu dis, sont perçus comme marginaux.
Oui.
Parce qu'ils fonctionnent.
C'est l'étage de la collectivité.
Exact.
De l'influence socio-culturelle collective qui formate notre égo mental.
100%.
N'oublions pas que nous avons dans notre commandeur au niveau corporel, c'est le mental. C'est lui qui a en responsabilité la survie, la reproduction et la protection de ce corps dans son environnement physique. Donc il est conditionné depuis, allez, en transgénérationnel, il est déjà conditionné, puisqu'on hérite d'un certain nombre de croyances directement issues de nos générations d'avant, et ça peut sauter plusieurs générations avant de s'exprimer. Un exemple simple, j'ai peur de l'eau, mais j'ai jamais vécu aucun traumatisme de mon enfance qui explique la peur de l'eau. D'où peut bien venir cette croyance qui fait que dès que je vois l'eau, je ne suis pas à l'aise du tout. J'ai une charge émotionnelle qui me... Non, je vous en prie, allez-y, mais moi, je reste sur la plage. Mais je ne sais pas pourquoi. Sauf que 3 générations avant, donc ta arrière-grand-mère était dans le ventre de sa mère et sa mère a vu un de ses enfants mourir noyé. Le traumatisme émotionnel s'est transféré dans les gènes et peut mettre plusieurs générations et ressortir. Et toi, ça fait partie de ta structure de départ de croyance. Après le reste, il est apporté par ce que tu as vécu, où tu as vécu, avec qui tu l'as vécu, dans quelle école tu as été, quelle éducation tu as reçue, tu es parti en voyage ou pas, tu habitais dans une maison ou un appartement, tu étais en centre-ville ou en banlieue, tu as eu des parents qui écoutent de la musique, qui n'écoutent pas de la musique, qui font du sport, qui ne font pas du sport, qui sont spirituels, qui ne sont pas spirituels, qui sont près de l'argent, qui sont coule avec l'argent. Et tout ça formate ton ego. Clac, 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 clac. Donc, en fait, c'est un conditionnement comportemental collectif.
Mais oui, mais oui.
C'est ta relation au monde collectif.
Donc, c'est important qu'on parle de ça parce qu'aujourd'hui, le sujet de cette pause café, c'est de parler du retour à soi dans cette période de confinement où on a vécu confiné. Il y a eu des remises en question. Certaines personnes ont vécu ça comme une opportunité. D'autres l'ont vécu plus difficilement. Et là, il y a un déconfinement. Il y a un thème qui revient dans tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. C'est « Et maintenant, est-ce qu'on retourne comme avant ?» Et donc, cette notion de retour à soi, de se dire « Ok, individuellement, comment je vais me mettre debout en fait, face au monde et comment est-ce que je reprends comme avant ?» Quelles sont les clés qu'on peut avoir ? Et donc, je trouve intéressant de pouvoir comprendre cette notion de paysage culturel, mais de paysage de croyance quelque part, qui vont, on l'a vu aussi avec Théo Duverger hier, qui nous parlait de l'inconscient, et on parlait, et il faisait l'analogie, lui, du software, du logiciel quelque part.
C'est exact, mais nous sommes les premiers ordinateurs. Les ordinateurs que nous avons autour de nous ne sont que des copies de ce que nous avons observé dans le cerveau. Donc, on est bien avec des programmes qui peuvent se resetter, qui peuvent être changés, qui peuvent être modulés. On a bien une capacité de modification de la qualité des croyances actives qui nous habitent. Mais il faut déjà mettre la main dessus, puisque les neuroscientifiques sont clairs. 95% de nos comportements quotidiens sont toujours les mêmes et sont automatisés dans notre inconscient. On ne fait même pas attention à ce qu'on fait à 95% de ce qu'on en fait. On n'est pas là. Oui.
C'est vrai.
Donc, on peut dire consciemment des choses, et puis des gens qui t'observent se disent « mais il est contradictoire ce type, il dit ça, j'ai entendu parler dans un discours qui porte ça consciemment, mais inconsciemment, quand tu le vois fonctionner, tu dis « mais il fait l'inverse ». Ce sont nos contradictions qui sont entre les visions conscientes qu'on aimerait bien mettre en œuvre, mais les programmations qu'on nous a données qui nous disent le contraire. Mais à quel moment on peut s'en apercevoir quand on n'est pas dehors avec notre attention de conscience, mais quand on est dedans. Oui, c'est ça, l'iceberg. Tout à fait ça. Nous, on voit que la partie est émergée, et la partie émergée, on n'en prend pas conscience. Or, c'est ce qu'il y a dessous qui détermine la réalité de la surface qu'il va y avoir au-dessus.
Effectivement, et donc, heureusement, il y a des clés. Et donc, toi, tu parlais de d'abord se poser des questions. Est-ce que tu as...
Alors, moi, ce que je voudrais pouvoir... exprimer, c'est que nous sommes une conscience. Moi, je l'appelle conscience d'esprit. On est une étincelle d'esprit. C'est-à-dire, c'est vraiment relié à l'énergie du ciel, à l'énergie des soleils. Et les soleils sont en réseau avec le cœur de la galaxie. Il y a tout un réseau électrique comme on en a chez nous qui nous amène le jus jusqu'à nous, tu vois, dans notre maison. Nous, on est des maisons et l'espace, c'est tout le système de production d'énergie qui arrive jusqu'à nous. Comment t'expliquer ? Il faut qu'on s'investisse, qu'on comprenne que la plupart du temps, dans une journée, notre attention de conscience est tournée sur le monde extérieur. Tout le temps, on est en train de faire quelque chose. Il faut qu'on gère ci, il faut qu'on gère ça. Et avec l'aide des automatismes pour les réaliser, mais on est tourné sur les réalités de ce que nous devons faire, déjà fait, pourquoi ça s'est fait, pourquoi ça s'est mal fait. On est toujours en train de regarder ce qui se passe dehors. Mais à quel moment on est dedans ? À quel moment on coupe notre connexion au monde extérieur, à cette collectivité et à sa façon de nous parler par le biais de nos cinq sens, pour rentrer à l'intérieur, pour nous comprendre l'autre voie de communication que le corps nous offre, qui est la voie vibratoire, spirituelle, avec nos extrasens qui va nous parler de nos sentiments, de nos émotions, de nos sentiments, de notre intuition, de nos synchronicités, de nos rêves. Tout ça, c'est un langage interne qui est essentiel parce que tu crées à partir de ces deux énergies. L'énergie de la rationalité physique, c'est l'eau chaude. L'énergie spirituelle, c'est l'eau froide. Et notre création, une croyance, c'est l'association de deux modèles, de ces deux énergies, en un élément qui prend forme dans la matière. Si l'eau est trop chaude, ça va pas être agréable, la création dans la matière. Tu vas te brûler. Si l'eau est trop froide, tu vas te geler, ça va être super désagréable. Mais si tu es au milieu, donc tu es ni boss, ni Bouddha, quelque part, tu es en harmonie avec la conscience de ces deux énergies, de la façon dont tu vas les utiliser. Si j'ai trop d'ombre, j'y vois rien. Si j'ai trop de lumière dans la spiritualité, j'y vois aussi rien. Par contre, si j'ai un peu de contraste entre l'ombre et la lumière, d'un seul coup, j'y vois clair. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée, c'est comment s'approprier notre mécanique de création en prenant déjà en compte le yin et le yang, ces deux énergies qui nous sont offertes à travers notre corps, par notre environnement terrestre et notre environnement cosmique, qui nous amènent ces deux possibilités avec des champs des possibles énormes. Tu me parlais de ton cercle, oui, mais nous on est fermé avec tel type d'énergie là et fermé dans tel type d'énergie en bas. Comment on remet de l'ordre? Comment on rééquilibre ces deux? Parce qu'en fait, notre cœur, il a plein de choses à nous dire.
Oui,
et ce cœur, il est lié à des intuitions, ce que j'appelle à des esprits supérieurs, qui sont des portions de toi. Hein. Tu es juste un avatar d'un esprit. Tu es un missionnaire de l'Église dans l'incarnation physique avec un projet de vie, une destinée, des expériences à mener pour nourrir la conscience qui, au-dessus, elle, n'a pas autant de richesse, de diversité que lorsque tu es dans la matière pour apprendre.
Ok, il y a plein d'idées.
Donc, il faut réhabiliter les deux.
Il y a plein d'idées que tu es en train d'aborder. Tu as parlé de l'énergie, qui est le lien entre les étoiles dans la galaxie, l'énergie qui
nous nourrit. Jusqu'à nous dans notre
cœur. Tu parles de à quel point on est concentré sur l'extérieur et qu'il faudrait plus se concentrer sur l'intérieur avec la métaphore de chaude d'eau froide. Bien sûr, j'entends. Mais alors, j'essaie juste de synthétiser. De regrouper, parce qu'il y a plusieurs idées qui sont intéressantes. Est-ce que, parce que par la manière dont on est conçu, nos sens sont tournés vers l'extérieur. C'est-à-dire que je ne peux pas entendre mon sang circuler dans mon corps, je ne peux pas le sentir circuler dans mon corps. Mon sens du toucher, et c'est même comment je vois, je ne peux pas voir à l'intérieur de ma tête. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les cinq sens sont faits pour percevoir notre environnement.
Sur les énergies physiques, pour les énergies physiques, tout ce qui est géométrie, mathématiques, donc l'écriture, les couleurs, le son, etc. Ouais, vas-y, continue, excuse-moi.
Ok, donc j'entends. Et là, tu parles aussi de boss versus Bouddha. Et c'est une question, on en parlait en off avant que le live commence, et se dire, mais... Est-ce que je peux, quelque part, Bouddha, c'est l'idée du développement spirituel. Et le boss, c'est l'idée du développement. On a des objectifs, on a envie de contribuer, on a envie de faire des choses, on a envie de réussir, de construire, de créer, exactement.
Est-ce que les deux. Que ce soit familial, professionnel, amical ou citoyen.
Voilà. Donc, est-ce que je peux être boss et Bouddha en même temps? Parce que souvent, on peut avoir, enfin, pas personnellement, mais c'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut avoir et ce développement spirituel et ce dont tu es en train de parler, d'être tourné aussi vers soi et en même temps d'être capable d'être tourné vers l'extérieur pour pouvoir créer et avancer?
C'est pas une chose facile à créer, mais c'est ce que l'on recherche. C'est le but de la vie. La vie se développe quand on travaille avec les deux énergies, quand on est Bouddha et boss en même temps. L'un sans l'autre, ta création est déséquilibrée. On va dire qu'on vit dans un monde de dualité. Il y a boss d'un côté et Bouddha de l'autre. Quand tu es que boss ou quand tu es que Bouddha, il y a des freins. Il y a des choses positives dans les deux côtés, mais il y a pas mal de freins aussi qui l'accompagnent quand tu es dans les extrêmes. Tu vois, cette dualité qui nous amène dans les extrêmes. Mais en fait, on vit pas vraiment dans un monde de dualité, on vit dans un monde de trinité. C'est-à-dire qu'il y a un point central ou une bande centrale dans laquelle tu peux osciller entre le boss et le Bouddha pour prendre tes décisions. Okay. Tu as le côté rationnel d'acquisition de ta formation professionnelle et puis tu as le côté Bouddha qui te dit « Mais oui, mais moi, si je travaille à produire quelque chose dans une entreprise, c'est pas pour détruire la nature. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas parce que la nature, je suis conscient de tout ce qu'elle apporte comme énergie à mon corps. Si je la détruis, je me détruis. » Donc là, cette partie business et sans respect des énergies de la nature qui nous entourent, c'est plus possible pour moi parce que j'ai le Bouddha qui me dit non, mais ça ne va pas m'empêcher de faire des choses créatrices dans le côté boss qui vont amener à développer une entreprise qui travaille en cercle fermé, c'est-à-dire que tout ce que je produis est recyclé, il n'y a pas de perte. Et en plus, ça amène de l'énergie dans la vie des gens et dans la nature et ça permet à tout le monde de grandir. Où est le problème?
Effectivement, donc tu parles de cet équilibre et de cette danse presque.
Moi, je m'en fous. Je n'ai pas besoin d'avoir des milliards pour pouvoir me sentir heureux dans une mécanique boss Bouddha.
D'ailleurs, il y a Natacha Bourreau ici qui partage une citation. Le travail est partout et la souffrance partout. Seulement, il y a des travaux stériles et des travaux féconds. Il y a des souffrances infâmes et des souffrances glorieuses. Félicité de la mener. À méditer, nous dit-elle. Est-ce que ça te fait réagir, toi, Marc?
Écoute, stérile les travaux féconds. Inévitablement, comme on peut agir de deux façons. Moi, notre création répond à un écosystème qui peut être positif, neutre ou négatif. C'est-à-dire que soit tu vas pour agir, il faut que tu prennes de l'énergie. Donc, quelle est la capacité de, qu'est-ce que tu as pris dans le pot de l'environnement dans lequel tu es comme énergie pour produire? Tu as pris une quantité 1 pour produire. Mais quand tu as produit, qu'est-ce que tu as apporté? Tu as apporté N plus 1, tu as apporté des éléments en plus ou alors tu as mis moins que tu en as pris dans le pot. Un écosystème positif, c'est quand tu en mets plus que tu en as pris. C'est-à-dire que tu as eu un effet démultiplicateur de l'énergie de par la nature de l'équilibre de la création entre le boss et le Bouddha que tu as su trouver. Quand tu es dans cette bande de milieu, tu démultiplies, tu crées l'abondance au niveau émotionnel, au niveau énergie, au niveau rationnel, tu crées des choses utiles et fonctionnelles. Quand tu es trop dans la matière, tu vas, comme notre société, consommer plus qu'elle ne remet dans le pot. Parce qu'on pollue, parce qu'on consomme 10 fois trop plus qu'on en a besoin. Et là, c'est un écosystème négatif. C'est-à-dire que là, la vie, elle, comme notre santé d'ailleurs, physique ou morale. Et puis, tu as des écosystèmes où c'est juste neutre, où ça se stabilise. C'est les lois de l'énergie. C'est pas des lois. C'est les lois qui animent l'attraction ou la répulsion énergétique et la capacité de diviser l'énergie ou de la démultiplier. Cela dépend de notre façon de gérer le boss et le Bouddha.
D'ailleurs, toi, Marc, est-ce que tu as des... Comment tu vis ces idées-là au quotidien? Le côté Bouddha, le côté boss, le côté...
Ça va dépendre de la construction de chacun. Si tu es dans le boss, il va falloir à tout prix que tu puisses te guider dans la compréhension de ce qu'est Bouddha. Ça ne veut pas dire tu es boss. On n'est pas dans un combat. Moi, je suis contre cette notion de réalité où la dualité s'affronte, où c'est des choses opposées. Je pense qu'elle n'est pas là pour être présentée sous une forme d'affrontement, mais sous une forme de complémentarité. Parce que c'est bien les deux énergies qui s'associent pour faire la création que tu vas mettre en œuvre. Donc,
D'ailleurs, il y a même... c'est une pensée qui me vient. Je trouve que dans le monde aujourd'hui, on a mis en opposition l'homme et la nature. On a mis en opposition l'ordre et le chaos.
C'est pour mieux régner. Dès que tu opposes les choses, tu empêches l'unification. La voie de l'amour, la voie de la réussite, la voie de l'abondance, c'est lorsque tu es capable d'unifier ce qui te paraît impossible à unifier de par les croyances qu'on t'a transmises. Unifier le boss et le Bouddha, c'est possible. Mais pour le faire, il faut déjà comprendre ce que l'autre partie que tu ne connais pas est. Certains sont trop Bouddha, sont très spirituels, ils vont se trimballer à poil dans la rue, Jésus arrive. Bon, là, il faut retomber un peu sur terre. On est dans un monde de matière. La matière a ses règles. Il faut savoir aussi en tenir compte pour pouvoir avancer dedans. Mon corps est fragile. Il est hors de question que je le mette en péril en faisant n'importe quoi.
J'ai profité pour poser la question à ceux qui nous suivent sur Facebook et YouTube en direct. Est-ce que vous vivez ce côté Bouddha dont on parle pour ceux qui seraient arrivés en cours de route? Je rappelle, on utilise cette métaphore pour parler de cette partie immergée de l'iceberg, notre inconscient, et qui règle en fait toute la partie intérieure qui va
porter notre création,
mais régir en fait notre expérience de vie à 95%, alors que le 5%, c'est juste les choix conscients qu'on va faire. Et donc, c'est de savoir, dites-nous en commentaire si vous allez vers ce côté-là ou pas du tout, si vous savez ce que c'est ou pas du tout, Est-ce que ça vous parle, cette notion, ou pas du tout? Dites-nous en commentaire sur Facebook et sur YouTube. Avec Marc, on va suivre le fil de commentaires et pouvoir interagir avec vous. Aussi, n'hésitez pas si vous avez des petites questions que vous voulez faire remonter ou des témoignages, tout simplement. On est là pour ça. Oui, oui Marc.
C'est vrai que pour ceux qui n'en connaissent pas le côté Bouddha ou qui on le perçoit ou commencent à le ressentir, c'est vrai que le travail sur soi, sur son corps pour débuter, est le premier point important à mettre en œuvre. Dès que tu vas te concentrer sur des activités pour donner des choses pratiques, comme la respiration, Dieu Seigneur, un élément à conscientiser, à découvrir en soi, parce que vous verrez, on respire tous dans l'ensemble très mal. Et la façon dont la mécanique respiratoire s'est ajustée chez les individus te donne une idée des stress psychologiques dans lesquels ils se trouvent. La respiration est la porte ouverte au monde intérieur et au ressenti. Donc à la méditation, à la contemplation, à l'écoute de ce que le corps a à te dire, sous ses tendus, relâchés, raides, souples, forts, faibles, douloureux, gênes, ou bien-être, puissance, créativité, et aussi, bien sûr, l'émotionnel, les sentiments, les intuitions. C'est dans ce travail de méditation et de recentrage sur soi à travers le corps, parce que inévitablement, vous ne pouvez conscientiser vos émotions et vos sentiments parce que le corps vous les transmet. Il n'y a pas une communication directe. C'est lui qui va les exprimer.
Oui, d'ailleurs, l'émotion est très physique, l'émotion est biologique.
Elle
même.
S'exprime dans la biologie physique. Et c'est notre seul moyen de la lire. On n'en a pas une directe. Tu vois ce que je veux dire? C'est notre corps qui passe l'info. Mmh. Et donc, c'est là qu'on va parler d'intelligence rationnelle, intellectuelle, et de notre côté, d'intelligence émotionnelle. De plus en plus, vous avez des super coachs, des super formateurs qui ne cessent d'exprimer l'importance des émotions dans la construction de nos comportements de nos plus tendres enfances. Si, quand j'étais petit, j'étais amoureux d'une fille dans la classe, j'étais tout petit, j'adorais cette fille, elle me rendait complètement folle, et les peu de fois que j'ai eu la chance d'aller chez elle, sa mère nous faisait des tartes à la pomme. Je vais te dire qu'aujourd'hui, j'adore la tarte à la pomme, je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore. Parce que j'ai un souvenir fort d'amour et tarte à la pomme.
Eh oui.
Mais oui. Le pudding fait à la cantine par servi par des fermiers, allez, prends ta bouffe, machin, où il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vibration, cette mémoire-là, j'ai pas de désir de pudding aujourd'hui.
J'entends.
Donc, nos émotions sont derrière chacune de nos constructions rationnelles et mentales.
D'ailleurs, une clé qu'on pourrait partager pour ceux qui nous suivent tout de suite. Donc ça, tu nous parles de à quel point l'émotion peut conditionner des comportements sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Et d'ailleurs, il y a cette boucle qu'on appelle pensée, émotion, action. Et quelque part, je rajouterais même on va percevoir notre réalité, donc ce qui se passe, on utilise à travers nos sens, et on va l'interpréter avec notre logiciel dont on a parlé,
voilà, nos programmes, croyances.
Nos croyances, et ça va générer une pensée.
Voilà, et tarte à la pomme dégueulasse, tarte à la pomme magnifique pour moi.
Exactement. Donc, toi, ça va être tarte à la pomme.
Avec la tarte à la pomme, quelles ont été les émotions qui t'ont accompagné dans la découverte d'une tarte à la pomme?
Et, oui. Oh. Mais, et là, Marc, c'est là où c'est intéressant, c'est parce que ça se renforce. Donc, on va percevoir quelque chose qui se passe, on va l'interpréter selon notre programme, nos croyances, etc. Donc là, dans le cas de Marc, ce serait tarte à la pomme magnifique. C'est la pensée qui va venir, et du coup, c'est l'émotion. Ça va déclencher une émotion biologiquement dans le corps.
Je vais pas hésiter une seconde.
Voilà. Et du coup, biologiquement dans le corps, il va avoir l'émotion de bonheur, de nostalgie, de plaisir. Et là où je veux en venir, c'est que l'émotion va biologiquement changer votre chimie en fait dans le corps, et donc va conditionner vos comportements. Donc, on le voit très bien. Si tout de suite, il y a un truc qui se passe et je me mets en colère, la manière que je vais avoir d'interagir avec toi va être complètement différente que si je suis dans un moment j'apprécie l'échange qu'on a et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le comportement, du coup, je vais faire quelque chose. Donc, par exemple, là, si on prend ton exemple, tu as mangé cette tarte à la pomme et tu vas te dire, ah ouais, c'est vrai qu'elle est bonne quand même. Et là, ça va renforcer. Et c'est là où il y a la notion de boucle.
Dégueulasse au bout, mais ton émotionnel va être si fort par rapport à ces rappels que...
Et donc, c'est la boucle pensée, ouais, émotion, action. Ouais.
A priori, si tu veux, nos croyances et donc qui vont mettre en œuvre nos émotions se construisent soit parce qu'il y a eu une forte intensité émotionnelle lorsque tu as découvert ce milieu d'expérience, qu'est le gâteau, ou qu'est le travail, ou qu'est le vélo, ou qu'est différentes expériences. Et il y a une forte émotion, et là, on sait que plus l'intensité de l'émotionnel est fort, plus la mémoire est vive. Et donc, les croyances font partie de ces croyances actives que sur lesquelles tu vas t'appuyer consciemment ou inconsciemment pour faire les choses. Si c'est de faible intensité, te rappelles quand on était à tel endroit, ouais, il va falloir rentrer en méditation sérieux pour aller m'en rappeler du souvenir, parce que c'est loin dans mes temps de données, si tu veux, elles ne sont pas prioritaires. Ouais. Mais il y a une autre chose qui rentre en compte pour pouvoir marquer les facteurs croyances actives, c'est la fréquence. C'est peut-être pas de grosse intensité d'émotion, mais par contre, quand ça se répète.
Alors là, ça me fait penser à.
Tu es un petit con, tu fais chier, tu machin, tu es nul. Et là, tu finis par intégrer la donnée et tu es un petit con. Tu es nul.
Il y a Lily en commentaire qui me dit : je découvre cette notion. Donc elle parlait de la notion de Bouddha, je pense. Cette notion d'aller à l'intérieur de soi et d'adresser la partie immergée de l'iceberg. Et n'ai pas assez de recul pour bien appréhender cela dans mon vécu. En revanche, cela a du sens pour moi, je vais donc l'analyser en conscience. Donc, je pense que, comme beaucoup, Lily représente certainement une majorité de personnes qui résonnent avec cette idée, mais qui ne sont peut-être pas équipées pour être guidées.
Ouais. Il faut être accompagné. Je ne suis pas arrivé à cette compréhension des choses rien qu'en faisant de la recherche tout seul. C'est parce que j'ai partagé des choses avec des gens qui avaient développé... Mais quand je regarde une conférence, je partage avec un conférencier qui a 40 ans de fonction sur un secteur et qui me nourrit de son expérience. C'est parce que j'ai des chamans dans ma vie qui se sont occupés de moi. J'ai des énergéticiennes, j'ai des amis qui sont dans la spiritualité aussi, avec lesquels nous partageons ces sujets-là. Je suis désolé, mais moi, parler de football, parler des stars de la télé, parler des téléréalités, des dernières séries de Netflix et compagnie, pour me détendre une fois de temps en temps. Mais c'est pas ça mes sujets de conversation.
Ça te nourrit pas, toi. Ouais.
Ça ne me nourrit pas beaucoup, la violence, l'égocentrisme, la haine, la vengeance de toutes ces téléréalités, telenovelas, etc. Ça me donne envie. Ça me fait comprendre que là, on nous formate à nous comporter avec des émotions qui ne sont pas celles dont nous avons besoin.
Donc justement, tu disais que la notion de répétition, même si c'est de faible intensité, cette notion de répétition peut nous influencer et former des croyances. Donc ouais. Là, en cette période de déconfinement, qui est une période de transition, on commence à ressortir. En France, c'était hier, le 11 mai. Au Québec, ce sera ça. À Montréal, ce sera sûrement le 25 mai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce retour à soi en ayant compris ce dont on vient de discuter, ce dont on vient de parler ?
Un, il ne faut pas se précipiter. Il faut vraiment prendre conscience que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une phase de transition et de transformation, pas seulement de l'humanité, mais de la planète et de notre système solaire au complet. Tous les voyants sont au rouge dans la mécanique. Allez voir la NASA qui suit les différentes planètes de notre système solaire. Il y a du changement depuis plus d'un an à deux ans. Il y a du changement qui est assez impressionnant dans l'organisation et le fonctionnement de notre système solaire, de notre Soleil. Notre champ électromagnétique terrestre est en train de s'inverser. Il va falloir peut-être qu'on se pose la question, ça va faire un petit peu mal. Il tombe et il s'inverse. Et on le sait que c'est réalisable puisque les couches de la géologie terrestre nous montrent que des pierres aimantées étaient aimantées dans l'autre sens à une certaine période de la construction de la planète. Donc on sait que ça peut avoir une inversion, etc. Donc on vit des grandes transformations. Et ces transformations, quelque part, le virus est là pour nous bousculer. Dans ces transformations, il nous demande de nous purifier. Qu'est-ce que ça veut dire nous purifier ? Ça veut dire nous remettre en accord avec les réalités du monde spirituel qui sont les nôtres. Donc, je vais le résumer avec notre cœur, puisque c'est à travers notre cœur, dans notre cœur, quand nous positionnons notre conscience dans notre cœur, que nous pouvons entendre tous ces messages. Notre cœur a des choses à nous dire. Notre cœur, c'est notre guidance supérieure. Hein, c'est le Vatican qui me cause à moi, prêtre, en Amazonie. Il me dit, va en mission avec telle et telle idée. Et il me guide dans cette mission. Donc, si j'écoute pas mon cœur, je ne sais pas quel est mon chemin réellement. Mais ce chemin, il y a une forme de prédestiné. Même si tu as, comment te dire, le libre arbitre de passer par là pour pouvoir arriver à cette prédestinée ou de jamais y arriver, parce que tu as ton ego qui va te bloquer dans ton évolution. Mais en attendant, tu as un objectif de vie. Et c'est en retrouvant tes émotions, en retrouvant cette partie du cœur, que tu vas pouvoir guider ta création rationnelle et faire de ton mental un supramental, un mental qui saura tenir compte des informations physiques extérieures, mais aussi des informations internes, émotionnelles, pour ajuster sa création et ses objectifs de vie. Quand tu es sur ton chemin, tu es dans l'abondance. Tout se passe bien. C'est fluide.
Ça me fait penser, Marc, effectivement, on parlait avec Tisha, qui est chanteuse guadeloupéenne et qui a une histoire fabuleuse. D'ailleurs, vous pouvez retourner voir la pause café avec Tisha, et qui nous parlait d'intuition et qui nous disait, quand tu suis, donc toi, tu parles du cœur, elle parle de l'intuition. Et quand tu suis l'intuition, la vie devient beaucoup plus simple, les choses sont beaucoup plus fluides. Donc, est-ce que c'est une... Ce que j'entends, est-ce que ce serait une première piste dans ce déconfinement et dans cette notion de retour à soi? Encore une fois, la pause café, le temps file comme à chaque fois. Je voulais qu'on puisse peut-être partager des clés.
Il faut revenir au langage du cœur. Il faut l'entendre et le comprendre. Il faut le conscientiser. Donc, ça nécessite un travail de conscientisation de ce qu'est Bouddha, hein, à peu près. Un retour à son corps par la respiration, la posturologie, la mobilisation, les étirements, le sport. Reprendre conscience de son corps, de ce qu'est une notion de souffrance, des ressentis qu'il a à te donner, pour que cette voix du cœur devienne de plus en plus claire pour toi. Parce que tu sauras, quand tu as un choix à faire, que tu as la partie rationnelle qui va te proposer une organisation de choix, mais aussi tu as ton cœur qui te parle en même temps. Et la supra-intelligence, c'est lorsque tu sais entendre les deux et non pas t'es fermé dans ton ego et dans ton rationnel pur qui n'est qu'une influence sociale, sociétale qui décide pour toi, en fait.
Et oui. Oui, effectivement.
Il n'y a pas ta part. Et si tu décides qu'avec ça, tu vas prendre des chemins de vie où les problèmes vont tomber dessus. Et tu diras, j'ai pas de bol. Mais c'est pas que j'ai pas de bol. Je te donne un exemple simple. J'ai une patiente qui arrive, qui vient et qui a... Je le vois qu'elle n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle tombe en larmes. Elle me dit, voilà, je viens de me faire encore une nouvelle fois dans mon travail devant mes collègues, dévalorisée par...
Marc, je pense à couper la connexion Internet sans l'avoir coupée. Je ne sais pas. Ça l'a fait tout à l'heure. Qu'il va revenir.
Ça va.
Ouais, donc tu disais, tu as une patiente qui est passée et voilà, elle s'est fait dévaloriser. Elle
arrive à la victimisation de son directeur, chef de service, qui la casse depuis trop longtemps. Et puis, je lui dis, mais c'est nouveau comme situation. Et puis, elle m'explique que dans le job d'avant, c'était à peu près pareil, etc., etc. Donc, elle se retrouve dans un schéma de victimisation. Mais je lui dis, mais attends, stop. Oublie tous ceux qui t'ont fait souffrir et je te demande de te mettre devant la glace qui est là et regarder et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de toi? As-tu du respect pour toi? Alors là, elle se met... Alors là, elle est vraiment fondue en larmes parce qu'elle a une valorisation d'elle-même qui est si basse, portée par des histoires de famille depuis tout petit, qu'elle porte la dévalorisation d'elle-même. Elle le dégage dans son inconscient de croyance. Et quand tu dégages ce genre d'énergie, eh ben l'énergie, elle répond à ce que tu envoies. Il ne faut pas oublier que tout ce que vous vivez autour de vous, chaque jour, c'est vous qui le construisez en fonction de ce que vous êtes à de l'intérieur. Il n'y a rien de ce que vous vivez de l'extérieur qui n'a pas pris son origine dans l'intérieur. Tu ne pourras jamais rien donner à personne, ni de rien recevoir de personne extérieurement que tu ne saches pas te donner à toi-même intérieurement. Ça, c'est la base. Quand tu comprends à ce moment-là qu'elle n'a pas de respect pour elle-même, elle va trouver sur son chemin toujours des gens pour la dérespecter, pour lui en miroir de ce qu'elle est.
Il y a aussi
Les gens ne se rendent même pas compte. Chacun joue son rôle sans se rendre compte parce que lui, il a un rôle de dévalorisant qu'il doit mettre aussi en lumière et se restructurer. Mais On vit ce que l'on est. Mais pour savoir ce que l'on est, il faut bien rentrer en soi pour découvrir ce que l'on porte. Et toutes les fois que je suis rentré en moi depuis ces dernières années, qu'est-ce que j'ai découvert ? Des choses complètement incroyables que je ne pensais pas porter. Qui sont des traumatismes de l'enfance, qui sont des conditionnements socioculturels, qui sont des héritages transgénérationnels. Alors, tu vas découvrir des choses merveilleuses, parce que, bon Dieu, qui a un potentiel qui est extraordinaire, qui dort en nous, ou qui fonctionne aussi positivement en nous. Mais tu vas aussi d'abord, ton corps va d'abord te mettre en lumière quand tu rentres en toi. Alors, attention, hein, quand vous allez rentrer en vous, vous allez certainement voir arriver des choses pas faciles à vivre. Des charges émotionnelles lourdes, des sentiments lourds. Et en général, tous ceux que j'ai lancés dans les premiers temps dans la méditation, panique, parce qu'ils étaient trop sous pression et que le corps, il a tout de suite, il m'ouvre une porte pour que je puisse m'exprimer. Tiens, gère ça parce que j'en peux plus.
Mm-hmm. C'est ce que tu là, parlais au début de la pause café, tu parlais des boucliers justement qu'on se met. Ah, donc, quelque part, ce que j'entends, Marc, quelque part, c'est que la première clé, c'est la respiration. Tu dis, il faut revenir à la voix du cœur. C'est la porte d'entrée pourrait être la respiration et donc la méditation.
La respiration, c'est te concentrer sur ton système respiratoire. Donc, du coup, tu es concentré sur toi. Tu es concentré sur l'intérieur de toi. Et là, tu commences à ouvrir les portes de communication avec les différents extrasens qui sont là pour te parler de ton intuition, de tes émotions, de tes sentiments et des messages que le corps a à te faire passer. C'est tout le monde vibratoire qui nous entoure. Monde vibratoire représentant quand même 90% de l'univers. Hein. Matière noire, énergie noire, c'est ça. Hein.
Ouais. C'est vrai qu'en fait, je crois même que c'est même plus que ça. C'est 99.
La matière représente, je crois, 5 ou 6% de l'univers. Et le reste, c'est la matière noire et l'énergie noire, c'est-à-dire la vibration. En fait, on est dans un monde multidimensionnel et on est des êtres multidimensionnels. Et on fonctionne, ne serait-ce que notre corps fonctionne avec 7 chakras directs et 5 autres indirects. On a 12 chakras, on a 12 brins d'ADN, on a 12 mondes avec lesquels notre corps est connecté pour se nourrir. Et chacun de ces mondes est connecté par une conscience qui, quand on regroupe sous le terme d'inconscient, qui peut être orchestré par ton subconscient, et toi, conscient, tu dois apprendre à rentrer en connexion avec ton subconscient pour travailler dans ton corps, exactement comme les hypnothérapeutes le font. Ils ne te parlent pas à ta conscience.
Alors, je t'avoue que là, je ne suis pas équipé comprendre, parce que je suis pas du tout familier avec la notion de chakra. Je suis familier avec le mot, mais pas parce que... Parce que ça signifie nécessairement...
Les chakras, ce sont des portes transdimensionnelles qui ramènent d'une dimension de l'univers l'énergie que tu as choisi de prendre dans le potentiel de cette famille d'énergie. Tu as 12 familles d'énergie, 12 potentiels différents, 12 octaves. Et si tu veux, chacun des mondes a une information à te transmettre dans un potentiel qu'il t'offre. Tu peux prendre des informations complètes, des informations moyennement ou peu complètes. Et si tu veux, chaque chakra t'ouvre une énergie pour faire fonctionner ta création. Si tu es bloqué, et là c'est purement vibratoire, hein. on est hors champ physique, hein. Mais ces énergies mettent en œuvre le corps physique derrière. Donc si tu n'as pas pris les bonnes énergies, avec la quantité dont tu as besoin dans chacun de tes chakras, tu vas avoir des déséquilibres qui vont se traduire après dans le corps. Parce que imaginez-vous que notre corps est la télévision qu'on a l'habitude de regarder en 3D. Vous voyez la télé, imaginez-vous, c'est un hologramme. Alors on regarde cette télé, ouah, génial, elle nous présente des images, etc. On voit la cristallisation d'une information qui, elle, n'est absolument pas physique. Vous voyez bien qu'il y a une information qui arrive par des ondes satellitaires, qui passent dans une antenne et qui viennent frapper l'écran. Et le corps ne fait que exprimer un travail qui a été fait en amont par une chaîne de production qu'on appelle le monde vibratoire, dans lequel tu organises tes choses et après tu mets en œuvre dans la matière. Donc, revenir à soi, c'est prendre conscience que je ne suis pas seulement spectateur de ma réalité à travers mes yeux, mais je suis aussi producteur de cette réalité à travers mon monde de l'inconscient, du subconscient, dans lequel je dois aussi être présent pour travailler à gérer les supports sur lesquels je m'appuie pour créer. Et quand il ne m'apporte pas le bien-être qu'il devrait, alors je change mes croyances. Mais je ne demande pas à l'autre de changer. Je me change.
Ok, donc on reprend le pouvoir entre nos mains Et on est au contrôle de notre réalité, si je t'entends, Marc.
Et du pouvoir, il y en a, mais ça va aller très très loin. Cette humanité qui choisira ce chemin ira très loin.
D'ailleurs, je sais que tu
vois le médecin ni le kiné, parce que nous saurons gérer parfaitement cette physiologie inconsciente. Nous prendrons la main dessus. Nous saurons nous réparer, nous saurons nous transformer, nous saurons nous auto-guérir. Nous saurons alimenter correctement notre corps en énergie pour qu'il puisse rester en bon état et non pas vieillir comme il le fait. Pourquoi on vieillit, pourquoi on tombe malade? C'est parce qu'on n'apporte pas les informations de ces multicouches dimensionnelles qui conviennent pour maintenir les besoins d'un corps physique qui sont très consommateurs d'énergie.
D'ailleurs, Marc, je sais que tu apprécies particulièrement les conférences de Philippe Guillemant, c'est le docteur Philippe Guillemant, qui est français et qui travaille au CNRS, donc c'est le Centre National de Recherche Scientifique. Est-ce qu'il y a une conférence en particulier que tu veux partager ou...
Il a trois bouquins, commencer un peu par le début quand on n'a pas eu trop l'habitude de... Mais si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que tu as un physicien, donc un monde rationnel et physique, qui te parle... du monde vibratoire avec des termes que l'on peut petit à petit arriver à comprendre. L'idée, c'est comment passer par le rationnel dans un premier temps pour ouvrir la conscience du vibratoire qui fonctionne pas avec le même mode. C'est un peu comme si on comparait la science physique avec la science quantique. On a comme un petit problème, les scientifiques ont du mal à les interconnecter. Lui va t'expliquer un petit peu plus comment ces deux mondes fonctionnent et s'interconnectent. Et en fait, il parle d'un côté du corps et de l'autre côté de la spiritualité. Mais il y a plein de professionnels. Il y a Joe Dispenza, un médecin américain qui a fait de très bonnes analyses sur le sujet.
Je vais juste afficher le nom. Donc, c'est Philippe Guillemant qui est un ingénieur physicien français du CNRS. CNRS, qui est diplômé de l'école centrale à Paris, et du coup qui est habilité à diriger des recherches. Lui, il est spécialiste du chaos et de l'intelligence artificielle, et donc ses travaux ont débouché sur de nombreuses innovations qui lui ont valu plusieurs distinctions d'ailleurs. Donc, si vous voulez poursuivre sur des sujets comme ça, je sais que Marc apprécie particulièrement son contenu. Donc, c'est Philippe Guillemant.
Il me fait penser un petit peu à Einstein. Einstein, c'était un physicien, mais en fait, à la fin, c'était un grand Bouddha. Et regarde bien les écrits qu'il a laissés. Mec, il était connecté pour découvrir le monde. Il a compris qu'il y avait une autre façon que rationnellement pure. Dès quand vous rentrez dans la spiritualité, quand vous arrivez à un certain niveau, vous vous connectez à un Internet cosmique où l'information est en masse. Ce que vous demandez, vous le recevez. C'est assez surprenant, mais ça fait partie de nos pouvoirs. Parce que nous sommes imbriqués dans tout ce qui nous entoure, nous sommes interconnectés, et grâce à toutes ces portes dont je te parlais tout à l'heure, qui nous connectent au monde minéral, au monde végétal, bactérien, animal.
Qui connecte tout le vivant, quelque part.
Ouais. Sachez que les virus n'ont pas toujours été présentés à nous comme des éléments destructeurs. Parce qu'on est dans une phase où tout le monde est en train de flipper sur le virus, mais... Qu'est-ce que c'est que le virus? C'est de l'ARN. L'ARN, c'est des protéines en potentiel. Les protéines, c'est ce qui fait tourner notre corps et qui nous donne notre fonctionnalité. Et d'ailleurs, dans les protéines les plus importantes pour faire tourner le corps humain, 15% de ces protéines, on a découvert qu'en fait, c'est parce qu'on avait absorbé le potentiel d'ARN de virus qui nous ont contaminés et intégré dans notre génome qu'on possède ces protéines. Donc, les virus ne sont pas toujours des ennemis. Ils le sont suivant leur puissance vibratoire de l'information qu'ils ont à nous donner. C'est de la nourriture. Seulement, si la nourriture est beaucoup plus vibratoirement élevée que nous, on ne va pas pouvoir l'absorber, elle va nous faire du mal. Donc, on va tomber malade en sa présence. Si on est à peu près équilibré, on va la neutraliser. Si on est en demande d'information et cette information répond à notre demande, on l'intègre et on grandit avec. Un exemple simple, il y a des lézards en Amérique latine qui se sont fait contaminer dans une région par un virus. Il y en a un certain nombre qui sont morts, qui n'ont pas résisté à ce virus, mais tout un certain nombre d'autres sont survécus. Et grande surprise, ils ont commencé à ne plus pondre d'œufs pour faire des petits, mais à faire de la gestation, ils sont devenus des mammifères. Comment les chercheurs se sont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils ont récupéré une des protéines du virus qui les a contaminés, qui est la protéine spécifique pour créer le monde de l'utérus et des mammifères dans le modèle de conception de la reproduction. Ce sont les premiers lézards au monde à être des mammifères. Grâce à un virus.
Je suis bluffé.
Ah ben oui, mais c'est, le problème, c'est que c'est ça, c'est que regarde qui tombe malade dans votre société. Hypertension, diabète, cholestérol, tous ceux qui sont en désaxation avec leur équilibre intérieur et qui créent une faiblesse dans l'organisme. Or, le virus qu'on a, c'est un nouveau virus. Et avec les nouveaux temps qui arrivent de transition, celui-là, il est chargé en information. Donc, il est puissant dans l'information qu'il possède. Mais si toi, ton corps est bas en vibration, il ne peut pas absorber ce truc-là. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Mais si tu as la capacité de le voir non pas comme un ennemi et dans la peur, mais comme une possibilité d'évolution pour toi, parce que tu es dans la conscience que tout autour de toi est de l'énergie, de l'information et que c'est de la nourriture à condition qu'elle réponde à tes capacités d'absorption. Et si tu es dans un processus cyclique d'évolution, de remise en question permanente de toi-même, tu vas commencer à absorber les choses que tu pensais pas qui existaient et ça va te construire et tu vas te redévelopper dans ton génome déjà. Il faut savoir qu'on a beaucoup de choses qui dorment en nous et qui ont besoin de s'exprimer. Et tout ça, c'est en nettoyant notre corps, de nos histoires, de notre karma, et que nous allons arriver à faire ressurgir tout ce potentiel que nous avons en nous. Et ça passe par le message du cœur, ça passe par le Bouddha. En association avec Boss, personne n'oppose personne, on travaille en harmonie, ensemble, avec la nature. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai pu découvrir dans la nature, la puissance des roches, la puissance des...
Je pense que ça a coupé un petit peu. Il y a Zazu sur Isabelle sur Facebook qui nous dit que c'est passionnant. Merci Zazu. Je profite pour saluer Marc aussi qui est là. Il y a Jean-Claude Toquin qui est là et que je salue. Il y a Sébastien Reid que je salue également. Yolande aussi. Bonjour. Salut Yolande. Je pense que Marc est de retour. D'ailleurs, Marc, est-ce que tu connais ce monsieur qui s'appelle Nassim Haramein?
C'est pour moi le nouvel Einstein. Si tu vois son parcours, il est extraordinaire parce que ce mec-là, il a suivi son instinct, il n'a pas suivi les grandes écoles et il est devenu un chercheur hors pair. Il t'explique comment la figure géométrique, il te connecte au monde justement intérieur, ce type. Il te donne les explications des cycles des atomes, de la vibration, de la vie. Vous n'avez oublié, les cycles, c'est je nais, j'inspire et je me produis et je crée. Et puis après, il faut que je commence à fatiguer, je prends un peu de recul, je commence à me reposer, j'analyse, je prends du recul sur ce que j'ai vécu et je fais, et je dors pour récupérer. Et c'est une petite mort. C'est le cycle respiratoire, c'est le cycle d'une journée, nous avons les cycles des saisons, nous avons des cycles de plus en plus grands qui nous parlent de ces quatre phases. Et la mort fait partie du cycle. Il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est une phase indispensable et nécessaire que vous réalisez tous les jours. Après chaque expiration, après chaque nuit, vous venez de sortir d'une petite mort. Et vos atomes passent son temps à faire la même chose. Donc, pas de panique, personne ne meurt. Votre corps ne peut retourner à la Terre et votre conscience, elle, continue son chemin dans les dimensions où il n'y a pas d'espace et de temps, donc pas de mortalité possible.
D'ailleurs, pour finir sur les recommandations de bouquins ou de conférences, donc on a parlé de Philippe Guillemant, on parle ici de Nassim Haramein. Juste pour mettre un peu de contexte sur Nassim, en fait, lui, c'est un scientifique canadien et ça fait 30 ans qu'il fait de la recherche où il a fait des découvertes, des connexions entre la physique, les mathématiques, la géométrie, mais aussi la cosmologie. Donc, l'étude du cosmos, la biologie, la chimie aussi. pardon. Et il y a une conférence qui est très intéressante, et je vous laisse juste le titre, vous pouvez aller chercher, c'est « The Physics of Spirituality ». Donc, c'est la physique de la spiritualité. Et il explique, ça fait penser aussi au bouquin de Philippe Guillemont, qui lui parle de physique de la conscience. Je remets l'image juste pour…
C'est la même chose.
Voilà, donc c'est clairement deux physiciens qui sont très reconnus. Alors, Nassim, par la communauté scientifique, est controversé. Maintenant, Philippe Guillemont, lui, est diplômé de l'École centrale à Paris. Il est ingénieur physicien au CNRS. Donc, ce sont deux deux avenues si vous voulez continuer à explorer ces sujets-là qu'on a discuté aujourd'hui.
C'est simple. La matière ne fait pas la conscience. La matière réagit par la chimie à la conscience. Et le lien, c'est le magnétisme. Le corps, c'est l'électromagnétisme. Les consciences, elles travaillent, eux, par le côté photonomagnétique des choses. Et c'est le magnétisme qui fait le lien. Le message passe par le magnétisme à travers un élément fondamental, l'eau. C'est elle qui fait la jonction entre ces deux mondes. C'est pour ça que la vie organique se trouve dans l'eau.
Effectivement, on a passé notre temps, le monde physique a passé son temps à explorer, à étudier ce qui était visible. Mais quelque part, quand on regarde à l'échelle de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit, en fait, 99% de ce qui constitue tout ce qui existe est fait de choses qu'on ne voit pas, d'espace. Et dans l'espace, c'est là où il y a l'énergie.
Oui, c'est le vide qui est l'énergie. Il n'y a pas de vide, le vide est plein. Il est plein de toutes ces dimensions dont je vous parle, qui ne sont pas perceptibles à nos cinq sens, mais il en est rempli. Hein. Et physiquement, ils ont calculé la quantité d'énergie que ça représente. C'est plus que pharaonique. Philippe Guillemot, c'est ça, c'est fabuleux. Ils remettent le lien entre... comment dire, il y a des expériences qui ont montré que lorsque la matière d'un côté est toute seule, bon ben ça va, hein, mais vous avez bien vu qu'il y a plein de planètes où il n'y a pas de vie. Pourquoi il n'y a pas de vie ? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi il n'y a pas d'eau ? Parce qu'elles ne font pas partie, elles ne tournent pas autour de leur soleil dans la bonne bande d'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure. Trop loin, trop froid, trop près, trop chaud. On en revient toujours à la même chose. Yin-yang. Vous voyez ? Et quand tu es dans la bande, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de l'eau. Parce qu'il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour la geler ou la faire mettre en vapeur. Donc, quand il y a de l'eau, qu'est-ce qui se passe ? L'eau va se mettre à éroder la matière atomique en circulant dessus et décomposer, puisque c'est le plus puissant solvant que je connaisse dans la nature. Il va décomposer les particules des différents minéraux qui existent pour les mettre dans de l'eau comme des matériaux à disposition. D'accord ? Et on se rend compte que rajouter à l'eau et à ses ingrédients, la lumière du soleil envoie un magnétisme, une information que l'eau sait réceptionner et mettre en œuvre et organise la matière. Et les premiers brins d'ADN apparaissent.
Super, Marc. Écoute, je te remercie énormément pour ces idées nouvelles, pour certains, rafraîchissantes. Il y a Isabelle sur Facebook qui nous demande si tu es en Guadeloupe. Alors la réponse est oui, Marc Olive est en Guadeloupe en ce moment. Il y a Marc qui nous dit très intéressant, merci pour ce partage. Super, mais merci à toi Marc de nous avoir suivis sur Facebook. Le temps file, c'est déjà la fin de cette pause café. Donc je rappelle le sujet d'aujourd'hui, c'était le retour à soi. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc il y a plein de pistes qui ont été partagées par Marc. Si je devrais en retenir qu'une, c'est de revenir à la voie du cœur. La porte d'entrée pour ça, c'est la respiration. Une manière de... C'est le corps.
C'est le corps.
C'est la respiration. Et du coup, on peut faire de la méditation. Et la méditation, vous allez voir que c'est quelque chose que personnellement je pratique et c'est assez impressionnant parce qu'avec une pratique quotidienne de la méditation, vous pouvez avoir l'air presque super humain. Mais en fait, je pense que toute cette démarche, c'est de réaliser que être humain, c'est super. C'est ça, c'est avant tout ça. Je vous retrouve. Désolé, Marc, il faut qu'on finisse pour aujourd'hui.
Juste pour finir, il y a énormément d'espoir devant nous. C'est une phase qui nous ouvre des portes extraordinaires. On peut choisir de rester dans le monde passé qu'on a connu il y a encore 3 mois. Et là, ça ne va pas être cool pour personne. Où on peut choisir d'ouvrir chacun d'entre nous chaque jour une nouvelle vision du monde sans attendre que les autres ne bougent. N'ayez pas peur que les autres restent bloqués. Ne vous concentrez pas sur le blocage que vous pouvez observer. Concentrez-vous sur vous et ce que vous voulez amener de nouveau dans votre vie, au quotidien, avec votre famille, avec vos enfants, au travail. Moi, je change ma façon de travailler. Je suis en train de tout bousculer. Je profite de cette phase pour remettre les choses à plat. Et laisser mes peurs derrière moi et écouter mon cœur enfin dans mes choix quand je fais les choses.
Super, merci Marc pour cette conclusion. Il y a Isabelle qui demande si on a si tu recommanderais toi Marc des techniques de méditation particulières.
chacun a sa perception des choses. Donc l'idée, c'est que tu as entendu méditation. À ce moment-là, tu vas commencer par taper méditation sur Internet et tu vas commencer par la connaissance, le savoir et la pratique. Et la pratique va te guider dans la forme de méditation qui te convient le plus, parce que tu vas commencer à écouter ton cœur et ton cœur va te dire « Ah ouais, mais quand je fais cette méditation-là, je me sens encore plus à l'aise, j'ai l'impression d'être rentré plus en profondeur, mais cette forme de méditation qu'on m'a fait essayer est moins intéressante pour moi, donc je la laisse tomber. » Et chacun va trouver, quand tu écoutes ton cœur, tu trouves toujours ce qu'il te faut, parce que lui, il sait.
Effectivement.
Il a la réponse.
C'est vrai pour Isabelle que la méditation est un outil, mais il y a plusieurs formes de méditation. Il y a la méditation qui est faite pour chacun de nous, mais aussi, personnellement, je vais pratiquer plusieurs formes de méditation. Par exemple, le matin, je vais privilégier une méditation qui va être beaucoup plus dans l'idée de visualiser, de planifier la journée, de me mettre dans un état d'attaque, une belle énergie, effectivement. Et puis aussi, le soir ou en milieu de journée, je vais faire des méditations qui sont plus propices. Alors, juste avant qu'on finisse, parce qu'on a déjà dépassé le temps, je vais partager une méditation que je recommande, qui est un bon départ. Je partage mon écran ici. C'est une méditation donc, qui a été créée par Vishen Lakhiani, donc l'auteur du bouquin que j'ai partagé aujourd'hui, Le Code de l'Esprit Extraordinaire, et qui s'appelle The Six Phase Meditation. Donc, elle existe en français, juste tapez Six Phase Meditation en français, et vous allez trouver cette méditation guidée par Vishen Lakhiani, qui est une méditation assez courte, d'une vingtaine de minutes, et qui est guidée. D'ailleurs, un conseil pour quand on s'initie à la méditation, c'est quand on est débutant, c'est bien d'avoir une méditation qui est guidée. Comme ça, comme Marc l'a dit maintes et maintes fois dans cette pause café, il faut être guidé quand on ne sait pas. Voilà, ce serait une première piste pour commencer. Évidemment, si vous voulez approfondir ce sujet de méditation, n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ou écrire aussi directement à HumansLink. Ça me fera plaisir de répondre. C'est vrai qu'on a plusieurs ressources et comme je disais, chacun a ses outils. Exactement.
Il y a une offre. Mais quoi qu'il arrive, méditer, il y a plusieurs façons de méditer et il faut savoir 100%. Les utiliser. Elles ne se piquent pas toujours au même moment. Tu les organises dans ta journée. Il y a celles qui te projettent, il y a celles qui te permettent de faire le feedback, il y a celles qui sont collectives, il y a celles qui sont tournées vers l'extérieur et vers la nature, te connecter à un arbre. Il faut voir, c'est une expérience assez extraordinaire.
Mm-hmm. Bon, je sens que Marc a plein d'autres choses à nous partager. Malheureusement, aujourd'hui, on va devoir s'arrêter ici pour la pause café parce que c'est plus la pause café, c'est bientôt l'heure de l'apéritif maintenant et la pause repas. Merci à tous de nous avoir suivis sur Facebook, mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, on revient tous les jours de la semaine à 11h pour une nouvelle pause café en cette période de transition de déconfinement. On est là, on revient. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Demain, on reçoit Anaïs Georgelin. Thème de demain, encore du sens au travail de demain. On va discuter de ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Marc, d'avoir répondu présent à l'invitation pour cette pause café. Soyez humains, soyez extraordinaires. Merci, à demain. Et d'avoir...